Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Patrick et Alain, en partenariat avec l'Observatoire Astronomique d'Agnan.
Bonjour.
J'espère que vous avez passé de belles vacances et surtout de belles observations du ciel. D'ailleurs, pour cette rentrée astronomique, on parlera de plusieurs phénomènes observables qui ne manqueront pas d'intérêt. Du coup, j'ai commencé par justement les observations du ciel. Peut-être que Patrick, tu veux dire un petit mot de présentation ?
Oui, bah, que l'été se termine. Comme tu dis, on a eu de très belles observations, comme tous les étés. Tu vas en parler avec notre Saturne qui arrive de plus en plus tard et Jupiter qui était un peu absente du ciel cet été, mais bon, on l'aura tout l'automne et l'hiver. Mais ça, tu vas en parler.
Ouais, je vais en parler effectivement. Donc, du coup, on va commencer par la pleine lune, hein, qui se produira le 18 septembre. Elle est surnommée la pleine lune des récoltes au mois de septembre. Hein, c'est logique à cette saison en général.
Oui, ou des vendanges, mais c'est même peut-être un peu tard.
Oui, alors historiquement, c'était la pleine lune des moissons, mais vu qu'elles arrivent de plus en plus tôt,
oui.
Du coup, on parle plutôt de pleine lune des récoltes, hein, pour la pleine lune de septembre. D'ailleurs, ce nom est, comme je le disais, assez évident à cette saison. Alors, ce mois-ci, elle fera surtout beaucoup parler d'elle aussi, puisque c'est une super lune bleue, une super lune d'une part,
oui.
Et une super lune bleue d'autre part, et ce sera aussi une éclipse. Alors, très partielle, puisque seul 8% de la lune sera éclipsée par l'ombre
de la Terre.
Et ce sera totalement observable, hein, en France et en Europe. Donc on pourra voir le phénomène en totalité, mais tard dans la nuit. Donc, si on résume, ce sera une éclipse de superlune bleue.
Ah, c'est pas mal.
On en reparlera. La nouvelle lune aura lieu donc le 2 octobre. Et elle fera aussi parler d'elle, puisque eh bien, ce sera aussi une éclipse. Et ce sera une éclipse annulaire de soleil. La lune sera à l'apogée. Et donc trop petite pour masquer intégralement le soleil. Côté planète, eh bien, comme tu l'as dit, c'est une belle période qui démarre, hein, pendant tout l'automne et même l'hiver. Puisqu'on aura, pour Mercure, par contre, c'est fini, hein, la belle période d'observation là, qu'on a eue sur le début du mois sera terminée. Vénus, eh bien, s'observe dans les dernières lueurs du jour. Alors, même si elle s'écarte de plus en plus de la position apparente du Soleil, eh bien, comme la Terre suit le mouvement de Vénus, eh bien, elle ne s'extirpe pas pour l'instant des basses couches de l'atmosphère.
Elle reste très basse sur l'horizon. Hein,
ouais.
Voilà.
Mars et Jupiter sont superbes, hein, notamment en deuxième partie de nuit, hein, et ça va aller de mieux en mieux. Saturne, elle, est visible toute la nuit et c'est sa meilleure période d'observation puisqu'elle est passée à l'opposition là, au début du mois de septembre. Et Uranus et Neptune seront également visibles en seconde partie de nuit, à peu près en même temps que Jupiter. Mais par contre, il faut là des instruments d'observation.
Oui. Hein, alors théoriquement visible à l'œil nu, Uranus, mais j'imagine qu'il faut un très très bon ciel.
Un très bon ciel, par contre, elle est bien repérable aux jumelles.
Ok.
Alors le 22 septembre, eh bien, enfin, ça y est, l'été sera fini, on retrouvera des températures un peu plus clémentes. Et donc, le soleil va maintenant passer dans l'hémisphère austral, c'est ce qu'on nomme l'équinoxe d'automne.
Mmh.
Et donc, les 24 et 25 septembre, le dernier quartier lunaire va passer de Jupiter à Mars, pardon, et ce sera un très joli tableau céleste à observer à l'œil nu. Le 5 octobre, Lune et Vénus sont en conjonction. Alors, c'est une belle manière, hein, d'observer la planète Vénus. La Lune permet de la repérer plus facilement. Du 6 au 10 octobre, c'est le maximum des draconides. Alors, on peut s'attendre d'aucune météore par heure jusqu'à plusieurs centaines par heure, comme en 2002. Il n'est pas prévu de sursaut en 2024, mais comme on sera en première, en nouvelle lune, hein, globalement,
c'est l'idéal.
Eh bien, c'est quand même une période idéale pour espérer en observer au moins quelques-unes. Alors, la fin septembre, eh bien, va marquer le début d'un autre grand pôle d'intérêt, la fameuse comète Tsuchishan Atlas. Qui sera difficilement visible en septembre en Europe. Elle s'observera plutôt le matin, avant le lever du soleil. Bon, là encore, dans des conditions assez difficiles. Elle sera au plus proche du soleil le 27 septembre Et pour nous, hein, en Europe, on peut l'espérer l'observer à partir du 10 octobre, si elle est très très lumineuse, hein, comme espéré. Mmh. Là encore, assez basse sur l'horizon, plutôt dans les lueurs du jour. Mais bon, comme elle va être très lumineuse, pour le coup, elle pourrait vraiment être belle à observer en photo et à l'œil nu. Si elle est un petit peu moins lumineuse qu'espéré, ça sera plutôt à compter du 11-12 octobre. Et si sa luminosité n'est pas du tout celle espérée, eh bien ça sera plutôt qu'à partir de la mi-octobre. Mais par contre, la grosse lune, hein, va faire son apparition. Et du coup, ça va être
un petit peu handicapant.
Voilà, il faudra attendre le 20 octobre. Elle va remonter, hein, dans le serpent, l'ophiuchus et etc. Donc là, elle va être normalement, notamment aux jumelles et aux télescopes,
mieux placée,
ouais, assez facilement observable.
Par rapport à NEOWISE, on a une idée si ça peut atteindre, espérer atteindre cette...
Ah oui, alors, a priori, elle devrait être au moins aussi brillante que NEOWISE.
Oui, quand même.
Par contre, elle pourrait surtout, eh bien, atteindre, voire dépasser la magnitude d'Hale Bopp, hein, qu'on a vu à la fin des années 80. Et donc, ça pourrait être
une bonne surprise.
Une bonne surprise. Alors, par contre, ce qui est incertain, c'est que au mois d'août, il y a eu plusieurs articles comme quoi on observait les premiers signes de fragmentation de la comète et en gros, qu'elle allait faire pchit et circuler, il n'y a rien à voir.
Ah oui.
Mais c'est des articles qui ont été contestés par la suite et pour l'instant, elle est à peu près, hein, sur la courbe de luminosité qui était escomptée.
Okay.
Donc, elle pourrait être une très belle observation. Et beaucoup plus incertain, puisque on l'attend depuis le printemps, c'est la fameuse apparition de la nova qu'on appelle T. Corona Borealis, hein, cette fameuse nova. Je vais en parler d'ailleurs un petit peu plus précisément, on va passer sur ce second sujet, hein, puisque les éphémérides en elles-mêmes, hein, sont terminées. Donc on va passer justement sur ce fameux phénomène de Corona Borealis. Alors pour résumer, c'est une étoile binaire symbiotique dans la couronne boréale qui est à 2600 années-lumière de nous. Et elle est connue pour ses novas récurrentes qui ont lieu tous les 80 ans. Alors les dernières observations observées, hein, furent en 1946 puis 1866, hein, de manière formelle. Et on va dire de manière par déduction de report d'observation, on sait qu'elle a été observée en 1787 et aussi probablement en 1217.
Ouais, donc on est à peu près tous les 80 ans.
Voilà. Alors sa magnitude normale, hein, entre guillemets, elle est d'une magnitude 10. Alors ça veut dire que c'est invisible à l'œil nu, c'est invisible aux jumelles, hein, en temps normal. Elle est cependant visible au télescope. Et lors de ces fameuses explosions, hein, qui ont lieu tous les 80 ans, eh bien, elle passe de magnitude 2 à 3. Alors ça fait à peu près la magnitude de l'étoile polaire, hein, la luminosité, oui, de l'étoile polaire, ou de la luminosité de l'étoile la plus brillante de la couronne boréale. Et donc ça correspond à un sursaut de luminosité d'environ 1500 fois.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal, oui. Et cette période de visibilité à l'œil nu dure quelques jours, une semaine tout au plus.
Mmh.
On ne connaît pas de date exacte parce que initialement on devait l'attendre au printemps, voire dans l'été, mais on l'attend toujours. Et du coup, difficile de donner, hein, une date précise. Les nouvelles prédictions prévoient que le phénomène devrait se produire dans l'année qui vient. Ah, en gros, on se mouille pas.
Bah après, c'est compliqué parce que vu la durée de les échelles des étoiles, être précis à une semaine, un mois près, c'est quasiment impossible.
Donc, il s'agit d'un système d'étoiles binaires, hein, qui sont formées de deux étoiles, donc d'une géante rouge, plutôt une étoile froide, accompagnée d'une naine blanche qui, elle, est très chaude et qui aspire la matière de la géante rouge. Donc, la naine blanche est entourée d'un disque d'accrétion qui est caché, hein, par un immense nuage de matière provenant de la géante rouge. Et quand le système est en équilibre, la luminosité de l'étoile est principalement liée à la luminosité de l'étoile géante rouge, donc plutôt assez faible, et c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Et lorsque le flux de matière augmente et drastiquement, hein, énormément, la naine blanche va se dilater et elle va à un moment donné donner lieu à de violentes explosions thermonucléaires qui vont provoquer un bref mais très intense sursaut de luminosité. Alors Patrick, naine blanche, oui. Naine rouge, toi qui es, si j'ose m'exprimer ainsi, le professionnel de la vie et de la mort des étoiles, oui. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, alors on va quand même faire simple, mais on va se dire qu'il y a plusieurs types d'étoiles, et le futur, le devenir d'une étoile est étroitement lié à sa masse d'origine, c'est-à-dire quand l'étoile se forme. Alors on va dire qu'on a comme catégorie d'étoiles les naines rouges, qui sont en gros les plus petites étoiles, donc de masse inférieure à la masse du Soleil. Alors ces naines rouges, elles fusionnent tranquillement l'hydrogène dans leur cœur, et ça a pour conséquence le fait qu'elles vont vivre, entre parenthèses, très 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 longtemps, et surtout à la fin, elles n'explosent pas, elles ne font que refroidir. On estime la durée de vie d'une naine rouge quand même à au moins 50, voire plus, milliards d'années. Donc, en gros, on sait pas ce qu'elle on n'a pas observé ce qu'elles deviennent vraiment, puisque l'univers n'est pas assez âgé. Ensuite, on a les étoiles comme notre Soleil, qui nous sert de référence, une masse solaire. C'est notre étoile, le Soleil, est une naine jaune. Alors, pour l'instant, le Soleil, dans sa séquence principale, il va évoluer. On en a quand même pour un petit moment encore, mais notre Soleil va évoluer en géante rouge, justement, avant de, entre parenthèses, exploser, c'est-à-dire éjecter ses couches externes, et dans le même temps, le cœur s'effondre sur lui-même, justement, pour former une fameuse naine blanche. Alors, après, on va avoir des étoiles plus massives, où on aura toujours ce phénomène où l'étoile est dans sa séquence principale, ça dure moins longtemps, mais comme l'étoile pourra fusionner plus d'éléments dans son cœur, et étant plus massive, la fin sera beaucoup plus cataclysmique. Et on peut avoir soit une étoile à neutrons, c'est-à-dire quand le cœur s'effondre, ou si c'est encore plus massif et dans certaines conditions, un trou noir stellaire. Voilà.
Oui, alors Patrick, on a parlé de nova, moi j'ai déjà entendu parler de supernova, c'est quoi la différence alors du coup ?
Alors déjà, nova ça veut dire nouvelle, c'est-à-dire que les anciens quand ils observaient comme ça de nouvelles étoiles dans le ciel, ils voyaient un point en plus, ils appelaient ça nova, nouvelle, mais en fait ils pensaient voir la naissance d'une étoile, et en réalité c'est plutôt la mort, entre parenthèses, d'une étoile. Alors supernova, c'est une étoile qui est beaucoup plus massive, alors on a deux types de supernova. Les supernovas de type 1A, obligatoirement avec un système binaire, c'est ce qui va se rapprocher le plus d'une nova d'ailleurs. Et puis les supernovas à effondrement de cœur, donc une étoile très massive, minimum 8 masses solaires. Alors dans le cas des supernovas, la finalité, ça sera souvent un cœur qui s'effondre, un rémanent de supernova, le cœur, ça sera, comme je disais tout à l'heure, une étoile à neutrons ou un trou noir. Dans le cas d'une nova, ça ressemble vraiment à une supernova de type 1A, mais c'est-à-dire une naine blanche qui va rentrer en interaction en aspirant la matière de son étoile compagnon. Alors ça peut être une géante rouge, mais ça peut être aussi une étoile sur sa séquence principale ou une autre naine blanche. Alors c'est moins cataclysmique. Et ça peut surtout être cyclique, c'est-à-dire être récurrent. C'est le cas justement de notre fameuse étoile T Corona Borealis.
Et on explique pourquoi c'est récurrent justement ?
Alors c'est justement ce qu'on essaye d'élucider. Soit l'étoile, la naine blanche aspire la matière, il lui faut un certain temps pour avoir ce disque d'accrétion qui va venir d'un coup se plaquer sur la surface avant d'engendrer cette formidable explosion thermonucléaire. Et puis ça ne détruit pas l'étoile entièrement, donc du coup ça va recommencer. Ça peut être aussi le fait que les deux étoiles orbitant l'une autour de l'autre, peut-être qu'à un moment donné, vu que l'orbite est très excentrique, la naine blanche va arriver suffisamment proche de l'autre pour aspirer la matière à ce moment-là, et puis elle fait son petit phénomène d'explosion, et puis elle repart, et peut-être que ça se refait tous les 80 ans. Ça, c'est pas défini, il faut le déterminer avec les observations. Il faut savoir quand même qu'il y a peu de temps qu'on observe ces sursauts comme ça d'étoiles avec des instruments, puisqu'avant ça ne pouvait s'observer et se noter que à l'œil nu.
Oui, voilà. Et du coup, est-ce que on sait s'il y a d'autres étoiles qui sont un petit peu comme ça, avec des novas récurrentes
Oui. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux, mais on peut le retrouver facilement. Il y a d'autres étoiles comme ça, de novas récurrentes. Il y a, comme les supernovas, elles sont classifiées. On peut retrouver tout ça facilement et suivre un peu l'information de ces étoiles particulières.
Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Patrick et Alain en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anian. Et aujourd'hui, eh bien, on parle de la vie, de la mort des étoiles et on va parler d'un autre sujet, entre guillemets, les lunes bizarres.
Oui, alors il y a un truc qui m'intrigue quand même, hein, même si c'est pas tout à fait le sujet, mais tu as parlé quand même des fameuses lunes bleues et compagnie, donc tu peux en dire un peu plus ?
Oui, oui, effectivement, on pourrait en parler un petit peu. Alors, bah, ça va permettre de justement parler, entre guillemets, de ce qu'on nomme dans l'astronomie les lunes bizarres, hein, aussi bien, surtout d'ailleurs, au sens médiatique du terme. La superlune, déjà. Eh bien, la Lune, elle a une orbite elliptique, c'est-à-dire que au plus proche de la Terre, elle est à 357 000 km hein, environ. Au plus loin, elle est à 406 000. Et en moyenne, eh bien, c'est 384 400. Donc la pleine Lune, quand elle est au périgée, elle est donc au plus proche de la Terre. Et c'est ce qui va se passer le 18 septembre. Elle sera au plus proche de la Terre, mais elle sera aussi en pleine Lune. C'est ce qu'on appelle une pleine Lune de périgée. Et donc, elle sera, qui dit plus proche, dit aussi plus grosse, hein, visuellement, de 14%. Alors ça, c'est invisible à l'œil nu, parce que si vous voulez faire la comparaison, il faut vous souvenir de la taille exacte de la Lune que quand vous l'avez vue dans le ciel au mois de janvier. Alors, visuellement parlant, hein, 10-15%, c'est dur à s'imaginer. Et qui dit plus proche, dit aussi plus lumineuse. Donc 30% que lorsqu'elle est au plus loin de la Terre. Donc elle est 30% plus brillante que la pleine Lune du mois de janvier. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est presque invisible à l'œil nu. Alors en fait, ce qu'on a vu d'ailleurs souvent, hein, nous, sur le terrain, des fois, quand on avait ces super-lunes, on se dit « Oh, la Lune, elle est violente. » Ouais,
c'est une impression. C'est une impression.
Voilà, on a cette impression qu'elle est entre guillemets, plus lumineuse, mais on ne peut rien quantifier. C'est pour ça que je dis presque invisible à l'œil nu, parce qu'on a cette impression qu'elle est effectivement plus brillante.
Alors, il faut savoir que la position dans le ciel aussi peut être importante, hein.
Ok, donc du coup, les pleines lunes bleues. Eh bien, la pleine lune, ou une même phase de lune, ça se produit tous les 29 jours et 12 heures. Donc, on pourrait avoir, eh bien, deux pleines lunes dans le mois. Hein. Par exemple, si la pleine lune a lieu le premier du mois, eh bien, on va l'avoir le 29 ou le 30, hein, de nouveau. Alors, l'origine du nom, elle est très incertaine. Il y a plein de sources et elle est très diversifiée. Alors, la première hein, qu'on a souvent, c'est une référence anglaise, puisqu'il y a une expression hein, anglaise qui est « on the blue moon », qu'on peut traduire pour nous. Alors, ce n'est pas une traduction mot à mot, mais ça correspond un petit peu à l'expression française « tous les 36 du mois ».
Ah oui.
Voilà, hein, c'est un petit peu ce nom-là. Mais par contre, il y a dans un almanach, je dirais classique, eux, ils donnaient des noms de pleine lune. J'ai d'ailleurs parlé de pleine lune des moissons ou des récoltes. Et donc, chaque pleine lune du mois a un nom. Sauf que la deuxième qui arrive, si elle, par exemple on avait la deuxième du mois de septembre, eh bien c'est quel nom on lui donne ? On ne peut pas lui donner celle du mois d'octobre, pas lui donner celle du mois de septembre puisqu'elle a déjà eu lieu. Et donc cet almanach donnait eh bien, une pleine lune bleue. Et d'ailleurs parce que c'était la couleur dominante hein, de l'almanach. Donc ça c'est une des sources hein, qui est probable. Puis, par extension, le Farmer's Almanach, qui est un almanach nord-américain, eh bien, lui a donné de nouvelles définitions, c'est-à-dire qu'en plus d'être la deuxième d'un même mois, hein, calendaire, c'est aussi la quatrième d'une saison ou la treizième pleine lune de l'année. Et c'est ce qui va se produire hein, ce mois-ci, puisque la pleine lune qu'on a du mois de septembre, eh bien, ça sera la quatrième pleine lune de l'été, puisque l'été va se terminer hein, le 22. Et donc, on a déjà eu trois pleines lunes hein, cet été. Donc, ça sera la quatrième de l'été. Voilà pour les pleines lunes bleues, qui se produisent d'ailleurs à peu près tous les deux ou trois ans. Hein. Donc, autant dire que c'est un phénomène tristement banal. Hein. Voilà. Alors un autre phénomène qu'on entend souvent, c'est la pleine lune rose. Alors ça, c'est bah, typiquement la pleine lune du mois d'avril. C'est son surnom, c'est la pleine lune rose. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la période de floraison du Phlox subulata. C'est une plante qu'on trouve essentiellement en Amérique du Nord. Et c'est d'ailleurs le nom qui avait été donné à cette pleine lune par des tribus indiennes nord-américaines. Voilà pour cette côté... pleine lune rose. La pleine lune rousse, alors ça c'est un terme qui nous vient directement des jardiniers, puisque c'est la pleine lune qui suit Pâques. Pourquoi ? Parce qu'à cette période-là de l'année, eh bien, on peut avoir des gelées matinales qui vont roussir les bourgeons. Et si pendant cette période où les bourgeons ont roussi à cause du gel, eh bien, on peut voir la pleine lune, hein, si c'est la période de pleine lune, on peut la voir à l'horizon, donc de couleur très rouge-orangée. D'où le plein long, cette pleine lune rousse. Voilà, c'est un terme, comme je dis, qui vient surtout du jardinage. La lune de sang, là, c'est un terme plutôt astronomique, puisque ça correspond eh bien, tout simplement à la couleur de la lune lorsqu'il y a une éclipse de lune, totale de lune. C'est ce qu'on appelle la lune de sang. C'est lié à la couleur hein, de l'ombre de la Terre, hein, qui est de couleur très rouge, liée à la réfraction atmosphérique, hein, enfin cet effet de prisme hein, d'arc-en-ciel, hein, qui fait que les rayons du soleil...
Il n'y a que les rayons rouges qui arrivent à s'en sortir, on dira, et toucher la surface de la Lune.
Voilà. Les rayons rouges vont être déviés vers l'intérieur de la Terre, hein, donc vont éclairer en fait, l'ombre de la Terre. Les rayons bleus sont de l'autre côté, et d'où cette couleur très rouge. Et puis la lune cendrée, qui est cette couleur. Alors c'est pas une couleur d'ailleurs, c'est quand
c'est,
on voit.
C'est un clair de terre sur la lune. Hein, tout simplement.
Voilà, c'est quand on. En fait, on voit la partie la lune éclairée par la lumière qui est réfléchie la lumière par la terre, la lumière du soleil qui est réfléchie par la terre et qui éclaire la lune. Ça se voit surtout au premier dernier quartier croissant.
Pardon. Oui, il faut que la partie éclairée par le soleil de la lune soit minimale pour qu'on puisse l'observer, sinon on est ébloui en fait.
Voilà, on est ébloui. Donc cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On se retrouvera le lundi 21 octobre pour la prochaine émission. Eh bien Patrick, je te laisse le mot de la fin, allez.
Bah écoutez, je vous souhaite de belles observations encore à effectuer pour l'automne et l'hiver. Faut pas oublier que le ciel, il est là tous les soirs.